de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Allons-nous perdre dans Venise? Du drame, de la tragédie, de la tragicomédie. La vie des palais vénitiens, atmosphère casanovienne. Deux Français, deux académiciens français à Venise pour France Culture à la fin des années 60. René Huyghe, philosophe de l'art qui présidait la commission internationale d'experts de l'UNESCO pour la sauvegarde de Venise, et Marcel Brion, historien d'art. Au cours des émissions de la série Heure vénitienne, nous avons déjà pu suivre ces deux guides pour examiner, contempler, découvrir Venise. Torcello, Rialto, la Piazza San Marco, le Palais Ducal, la Fenice, l'architecture, la peinture, la musique. Qui trouvait une certaine ressemblance entre Venise et la Bretagne? Réponse dans l'itinéraire qui vient cette nuit, itinéraire entre Murano et le Café Florian. Première diffusion sur France Culture le 3 octobre 1969.
Ô Venise, Venise, quand tes palais de marbre se seront écroulés dans les eaux, les nations se lamenteront sur tes ruines et l'on entendra des cris de douleur au bord de la mer destructive.
Heure vénitienne. Une série d'émissions produites et réalisées par Bronislav Horowitz et enregistrées à Venise par René Huyghe et Marcel Brion de l'Académie française. Aujourd'hui, entre Murano et le Café Florian, avec la participation de Diego Valeri, Ludovico De Luigi et des maîtres verriers Barovière et Tozzo.
Dans Venise la rouge, pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. Seul, assis sur la grève, le grand lion soulève sur l'horizon serein son pied d'airain. Autour de lui, par groupes, navires et chaloupes, pareils à des hérons couchés en rond, dorment sur l'eau qui fume et croisent dans la brume en léger tourbillon leur pavillon. La lune qui s'efface couvre son front qui passe d'un nuage étoilé, demi-voilé. Ainsi la dame abbesse de Sainte-Croix abaisse sa cape au vaste pli sur son surplis. Et les palais antiques et les graves portiques et les blancs escaliers des chevaliers, et les ponts et les rues et les mornes statues et le golfe mouvant qui tremble au vent. Tout se tait, fort les gardes aux longues hallebardes qui veillent aux créneaux des arsenaux. Ah, maintenant plus d'une attend au clair de lune quelques jeunes muguets l'oreille au guet. Pour le bal qu'on prépare, plus d'une qui se pare met devant son miroir le masque noir. Sur sa couche embaumée, la vanina pâmée presse encore son amant en s'endormant, et Narcisa la folle au fond de sa gondole s'oublie en un festin jusqu'au matin. Et qui dans l'Italie n'a son grain de folie, qui ne garde aux amours ses plus beaux jours? Laissons la vieille horloge au palais du vieux doge lui compter de ses nuits les longs ennuis. Comptons plutôt, ma belle, sur ta bouche rebelle tant de baisers donnés ou pardonnés. Comptons plutôt les charmes, comptons les douces larmes qu'à nos yeux a coûtées la volupté. Alfred de Musset.
On ne peut pas parler de tous les palais vénitiens. Chacun a son histoire, chacun a son passé, ses fantômes. Nous allons en prendre un, non pas au hasard. Nous allons choisir celui où a vécu Byron. Mais il n'y a pas que Byron qui l'illustre de ses souvenirs. Ce palais, c'est le palais Mocenigo, ou plus exactement le groupe des palais Mocenigo, qui se trouve sur le Grand Canal. Il y a là deux palais qu'on appelle les palais anciens, et puis ils ont été réunis par deux autres palais un peu plus bas, et qui sont la Casa Nuova. D'ailleurs, ce nom de Casa Nuova nous évoque un voisin qui est né tout près de ce palais, dans une des petites rues qui sont derrière, Casanova. Casanova était du quartier, et peut-être même dans des possessions de l'ancienne famille Mocenigo, qui à un moment possédait presque toutes les maisons des environs. Nous entendons sur le perron la rumeur des flots, et ce perron d'ailleurs est lui-même plein de souvenirs. Lorsque Byron a loué ce palais en 1818, il avait déjà eu des aventures amoureuses, on ne va pas les raconter toutes. Il a mené ici une vie assez aventureuse et même, on pourrait dire, un peu dissolue. Il y avait eu d'abord la boulangère de la Frazzeria, et puis quand il est venu ici, quand il allait galoper au long du Lido, quand il revenait, quand il allait même parfois au Lido à la nage, ce qui est une performance, il rencontrait au Lido une autre belle vénitienne que l'on appelait la Fornarina, parce qu'elle était la femme d'un boulanger qui avait 22 ans aussi. Elle s'appelait de son vrai nom Margarita Cogni. Et elle était complètement illettrée, mais une très belle femme. Et Byron, sans trop d'illusions, dans une de ses lettres, la dépeint même un bel animal qui a certaines qualités sur lesquelles il est inutile de s'étendre. Eh bien, nous n'en dirons pas plus nous-mêmes, mais elle était assez vulgaire, criailleuse, et les scènes qu'elle faisait à Byron ici, avec bris de vitre, étaient devenues gênantes. Il y a eu des ruptures, il l'a mise à la porte, elle est revenue, elle a voulu se tuer. Tout cela est extrêmement dramatique et c'était une passionnaria en un certain sens. Un soir, Byron était allé au Lido et la gondole ne revenait pas, il y avait du brouillard. Et la Fornarina est venue sur ces marches où nous sommes, brune, échevelée, comme il pleuvait, ses mèches s'étaient collées sur son visage. Et elle hurlait sa douleur déjà sur ces marches lorsque du brouillard sortit tout d'un coup la gondole de Byron. Et Byron, au milieu des fusions que nous pouvons imaginer, débarqua sur ces mêmes marches où nous sommes. Et il avait ici d'ailleurs une ménagerie, il y avait un ours, il y avait des singes. Byron s'était installé, il avait en même temps des grands salons de réception. Ici, dans ce palais, il y a eu une esquisse du paradis de Tintoret il y a encore quelques années. Et il y a eu maintes peintures connues. Il y a eu des sculptures, il y a toujours d'ailleurs des décors de Sansovino. Puisque nous sommes sur ce perron où débarquèrent les hôtes, car on arrive du Grand Canal, la porte de terre n'est qu'une porte de service en quelque sorte. L'entrée noble est toujours sur le Grand Canal, donnant sur l'immense vestibule sombre. Évoquons aussi les autres hôtes, cela nous donnera une idée de ce qu'était la vie de ces palais vénitiens. Il y a eu, en 1574, il y a eu Emmanuel Filiberto, prince de Savoie, qui était le grand vainqueur des batailles de Mühlberg et de Saint-Quentin, qui fut un hôte des Mocenigo. Quelques années plus tard, c'était un intellectuel, le grand Giordano Bruno, qui peut-être, les spécialistes pourraient dire si je me trompe, mais qui peut-être fut le premier à se préoccuper de l'idée de l'infini et de faire une théorie de l'infini, profond penseur, qui fut recueilli par le Mocenigo de l'époque, car celui-ci espérait, et nous revoilà à nouveau dans une atmosphère casanovienne, celui-ci espérait qu'un si savant cerveau devait posséder les secrets de la magie. Et il essaya de tirer de l'infortuné Giordano Bruno les secrets qui lui permettraient peut-être, on ne sait, de fabriquer de l'or. Et le pauvre Bruno, qui n'était que philosophe, était bien empêché de lui apporter cette denrée rare pour lui. Si bien qu'irrité à la fin, il fut livré par son hôte au Saint-Office. Et voilà une histoire tragique. Il y en a d'autres. Laquelle allons-nous choisir? au début du XVIIe. Il y avait dans ce palais Anne de Shrewsbury, la femme de Lord Arundel, le célèbre Lord Arundel. Elle était fort jolie et un noble, Antonio Foscarini, lui rendit ici visite. Ces visites devinrent de plus en plus fréquentes, de plus en plus prolongées. Et qu'advint-il ? Il advint que le Conseil des Dix s'émut, car le Foscarini, comme fonctionnaire de l'État, possédait certains secrets, et on craignait toujours que ces secrets ne parvinssent aux oreilles ennemies. Et les murs du Mocenigo avaient des oreilles anglaises à cette époque. Le pauvre Foscarini fut suspecté de trahison, arrêté et exécuté. Voilà toujours la Venise rose et noire, et sur ces quelques marches, nous pouvons évoquer aussi ce bijou rose et noir qu'est Venise tout entière, faite de joie et faite de crimes et de morts. On a pu parler à juste titre de l'impérialisme vénitien, et Venise a étendu par les tentacules de son commerce son emprise, nous le savons bien, jusqu'au loin. Mais Venise aussi a été jalouse de son autorité dans le nord de l'Italie, a essayé de l'étendre au maximum du possible. Elle n'a renoncé que devant les ligues qui se sont constituées contre sa croissance. Et pourtant, aux portes de Venise, dans l'île qui fait suite à celle du cimetière, il y a Murano qui est restée toujours indépendante. C'est que Venise tenait à cette île de Murano. D'abord, à partir du XIIIe siècle, tous les verriers de Venise ont dû venir émigrer à Murano, car le danger d'incendie était redoutable pour la ville. Si bien qu'il s'est constitué aux portes de Venise, une sorte de petite république des verriers, calquée sur le modèle vénitien. Il y a là une prodigieuse continuité. Et c'est ici, dans ce lazaret du verre, si on peut dire, où étaient transportés tous les verriers et où ils venaient former une sorte de petite république du verre, c'est ici que s'est développée cette étourdissante technique. La salle du musée de Murano où nous sommes est bien émouvante, car les objets sont tels dans les mêmes vitrines que nous les avons connus il y a peut-être déjà plus de 30 ans. Et on retrouve le même enchantement des transparences de ces plats, de ces verres, de ces vases qui sont placés dans de vieilles vitrines du XIXe siècle et face aux fenêtres. L'art de Murano a pourtant évolué beaucoup. Et au milieu du Xe siècle, il est bien plus ancien et probablement qu'il vient de l'influence des Sarrasins de Syrie, mais au milieu du Xe siècle, on voit apparaître une verrerie de couleurs. Et c'est toujours la couleur vénitienne, c'est le rubis, le bleu, l'émeraude. Et puis, à la fin du XVe, c'est le cristal, l'effet de cristal qui est découvert, avec toutes les variations qu'on peut donner au verre, l'opaline, la tissuole, la couleur laiteuse du verre. Puis la pseudo-porcelaine commence déjà à ce moment, elle se développera beaucoup au XVIIIe siècle. Et puis les filigranes légers, et même ces mouvements que les reliefs donnent au verre. Mais les formes les plus extraordinaires apparaîtront au XVIe, et la virtuosité des verriers de Murano est quelque chose d'incomparable.
Je suis assis au fond d'une boutique obscure de la Calle Larga San Marco. Je choisis un de ces clairs colliers dont le verre s'azure et j'écoute en mes doigts tinter son cliquetis. Tous les murs sont couverts du plafond jusqu'aux plinthes de longs fils suspendus qui balancent leurs grains dont les vives rondeurs sous un émail sont peintes de toutes les couleurs du soir et du matin. La boutique du vieux Berengo est étroite, étroite la calle et pauvre le marchand, mais tout y lui scintille, étincelle et miroite, et les perles de verre y gazouillent leur chant. car lorsque par hasard du coude ou de la hanche on touche ces longs fils lumineux et légers, mystérieusement l'un vers l'autre se penche et l'air vibre longtemps de leurs sons échangés. C'est là que j'ai choisi pour vous, un jour d'automne, ce collier sans fermoir qui vous allait si bien. Vous rappellerez-vous celui qui vous le donne? Vous rappellerez-vous le ciel vénitien? Vous rappellerez-vous, disais-je? Le temps passe, et rond de son doigt dur le fil le mieux lié. Le collier se dénoue et la perle se casse. Et si je me souviens, vous avez oublié. Et sans doute aujourd'hui, en ce soir solitaire, mélancoliquement je pense, seul de nous, à la boutique obscure, à ces colliers de verre, à l'étroite calle larga. Je pense à vous. Henri de Régnier.
Ce bruit qui nous parvient et qui monte, ce ronflement que nous entendons, c'est la fornace, c'est la forge où le verre est fondu. Nous sommes maintenant chez deux des descendants des plus illustres verriers de Venise, deux cousins d'ailleurs éloignés, M. Barovière et M. Tozzo, et nous entrons dans cette forge qui... peut-être évoquerait et Marcel Brion.
Oui, dont le bruit est exactement la sonorité que Wagner a retrouvée dans la forge de Siegfried. Et l'on pourrait penser que cela a fait penser Wagner déjà à ce personnage. Mais ici, ce n'est pas le bronze, arme meurtrière, que l'on forge, car c'était d'épée de bronze que servait Siegfried et non pas de fer, mais à la matière translucide et divine et céleste par excellence, qu'est le verre.
Mais nous avons la chance d'avoir M. Barovière et M. Tozzo à côté de nous, et ils vont pouvoir nous donner des informations sur à la fois l'histoire et la technique du verre. Je crois que vos familles pratiquent le verre depuis très longtemps. À quelle époque est-ce que les Barovières et les Tozzo ont commencé à travailler le verre?
Eh bien, les Barovières commencent depuis 1300 et les Tozzo viennent très peu après.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils sont plusieurs générations, plusieurs centaines d'années que nous travaillons ensemble, que nous sommes ici toujours,
de père en fils. Est-ce que vous avez encore des ouvriers dont la famille remonterait aussi loin?
Ah oui, évidemment, parce que on peut dire pratiquement que tout le monde qui travaille à Murano, c'est toujours plus ou moins des gens qui descendent des anciens maîtres verriers. Et alors, ça dure encore comme tradition.
Est-ce qu'on ne pourrait pas demander quelques mots à un de vos ouvriers qui descendrait d'une vieille famille?
Oui, Murano? Je ne sais pas s'il connaît les Français, mais en tout cas,
il
vous donnera.
Oui,
bien sûr.
Les grands ouvriers verriers de Murano sont d'ailleurs des sortes d'aristocrates, et leurs patrons étaient considérés tellement comme des aristocrates que, par une unique exception, les filles des grands patriciens de Venise et même des doges pouvaient les épouser sans déchoir. Ils étaient en somme l'équivalent des gentilshommes vénitiens, du patriciat vénitien, mais sans emporter de titre, puisque Murano avait son indépendance. Et c'est justement un des ouvriers qui, depuis des siècles, ont collaboré avec ce patronat seigneurial. Rappelons-nous qu'en France aussi, les maîtres verriers avaient des privilèges et qu'on pouvait être maître verrier sans déchoir de la noblesse. Eh bien, nous allons demander à un de ces ouvriers dont la famille a été associée si longtemps à celle des Tozzo et des Barovières, nous allons lui demander de nous dire un peu quelques mots sur Murano.
Mio nonno, ad esempio, lavorava nelle conterie Mio padre pure era un maestro vetrario e io, per logica, come succede spesso nelle famiglie, si segue l'arte del padre, del nonno, quindi sai, perché si è un po' anche affezionati. Quindi ora faccio il maestro vetrario nella barbiere e mi trovo molto bene, diciamo così. Come sicuro abbiamo delle grandi soddisfazioni, però è un lavoro molto molto pesante, quindi che a distanza logora. E poi risiedo a Murano, in quanto che è un'isola, non so, che
è un lavoro di artista.
Vogliamolo chiamare artista, non lo so, in modo ogni mestiere ha la sua parte artistica, così, quindi c'è un lavoro che impegna abbastanza a fondo, capisci? E dà parecchie soddisfazioni.
Grazie tante. E monsieur Barovière va nous évoquer à la fois la technique et nous dire quelques mots sur l'histoire de cette technique.
Eh bien, la technique maintenant est restée plus ou moins comme auparavant, c'est-à-dire quand il y avait les Romains ou bien il y avait à Venise les premiers verriers qui sont venus ici. Nous avons des outils tout à fait très simples, la canne à souffler, le chissoir, deux autres petits outils. Il y a une équipe qui travaille ensemble, cette équipe s'appelle Piazza, est formée par les maîtres verriers pour son adjudant. Et deux autres jeunes hommes qui travaillent ensemble. Cette unité est une véritable unité productrice qui va faire les pièces de commencement jusqu'à la fin. Bien entendu, chaque maître verrier a son esprit, son caractère, son désir. Alors, il y a une qui l'est fort, il ferait des pièces très, très importantes. Une autre aime les choses anciennes, alors on lui donnera à faire toujours des pièces, des réplicas de l'ancienne. Une autre, elle aime toujours des nouveautés, alors on lui confiera un travail tout à fait moderne, tout à fait nouveau de temps en temps.
Cet art du verre est à la fois un art ancestral et c'est un art moderne. Je me souviens que M. Tozzo me disait un jour, « Eh bien, choisissez dans n'importe quel tableau de Véronèse un vase qui vous plaît, je vous le ferai. » Vous vous souvenez m'avoir proposé cela. Et il y a évidemment, ce ne sont pas des copies, entendons-nous bien, ce sont des créations qui sont faites par les mêmes moyens que jadis, par des mains qui familialement sont les mêmes d'ailleurs, ce sont des répliques du passé. Mais vous avez aussi toute une activité moderne et des grands travaux. Quel est donc cet énorme plafond que j'ai vu à New York?
Eh bien, nous avons fait plusieurs plafonds. Je pense que les plafonds que vous avez vus à New York, c'est les plafonds en verre que nous avons fait pour les sièges à l'Italia. Nous avons fait dernièrement un lustre de 16 mètres de hauteur pour le Stock Exchange de Montréal. Nous avons fait des plafonds luminés pour différents hôtels, par exemple Hilton à Rome. Nous avons fait des copies anciennes pour la grande salle à manger de l'hôtel Ritz à Paris. Nous avons fait les plafonds à l'Opéra à Genève.
Vous parliez de copies anciennes. Ce n'est pas vous qui rappellerez qu'il vous est arrivé parfois de retrouver dans des foires d'antiquaires des œuvres que vous aviez restaurées et où les parties modernes étaient absolument indiscernables des parties anciennes. Maintenant, il y a un autre aspect aussi, c'est la dictée du public peut-être qui représente un danger parce qu'elle aurait tendance à faire évoluer votre art dans une direction qui n'est pas vraiment celle du goût vénitien.
Oui, c'est exact. Le goût a changé beaucoup. Et autrefois, dans nos ateliers, dans nos usines, l'ancien patron faisait lui-même son listre. Et puis, les princes ou les comtes ou l'aristocrate vénitien venaient dans l'île le chercher, l'acheter et l'amenait dans son palais. Aujourd'hui, nous avons la clientèle qui exige des formes bien précises. Nous avons une clientèle américaine, une clientèle allemande, anglaise, avec des goûts et des préparations artistiques tout à fait différentes. Donc nous ne pouvons pas imposer un goût à nous, mais nous devons suivre les goûts des autres.
Je le regrette parfois parce que le goût des verriers de Murano était plus pur.
Exactement, et nous aussi. Et c'est pour ça que nous faisons des efforts pour chercher d'imposer au possible notre goût et surtout notre connaissance du métier. En plus, depuis quelques mois, dans l'île même, nous avons organisé un comité pour défendre les produits de l'île et nous avons créé une marque où il sera mis dans tous les objets faits à Murano. Donc, cette marque d'origine nous espérons beaucoup qu'elle nous aide à faire connaître à tout le monde notre goût des Murano.
Eh bien, je crois que c'est là la solution du problème, qui est la marque d'authenticité pour la verrerie et la marque de qualité qui est celle de l'authenticité de l'esprit vénitien.
Entre tous ces vases, il y en avait 5 sortis de ses mains. Ils se distinguaient des autres comme s'ils avaient appartenu à une espèce différente. Mais lequel des 5 était le plus beau ? Les ouvriers inclinaient vers lui leur visage, tout en exposant au feu les coupes fixées au bout des cannes pour les empêcher de se refroidir. Et les flammes, claires comme celles que donnent les feuilles crépitantes du laurier, ondoyaient de l'autre côté des parafeux, semblant tenir les hommes captifs par les outils de l'art. « Oui, oui !» s'écria Stelio en voyant le maître verrier extraire avec des précautions infinies le vase de son choix. « Le sang ne ment point. Elle est digne de la Dogares Foscarina, la coupe que tu lui donnes. » Le maître verrier, tenant la tige de la coupe entre le pouce et l'index, souriait devant l'actrice, le visage éclairé par cette chaude louange. Son air de subtilité et de sagacité faisait penser au petit renard d'or qui court sur la queue du coq dans les armoiries de Murano. Ses paupières, rougies par le reflet violent, battaient sur son regard tourné vers l'œuvre fragile qui brillait encore dans sa main avant de partir. Et ses doigts caressants et toute son attitude révélait la faculté héréditaire de sentir la difficile beauté des lignes simples et des fines colorations. Elle était comme une de ces fleurs miraculeuses qui éclosent sur des arbustes maigres et tordus, la coupe tenue par l'homme voûté qui en était le créateur. Très belle en vérité, cette coupe, et mystérieuse comme les choses naturelles, conservant dans sa concavité la vie du souffle humain, rivalisant par sa transparence avec les eaux et les cieux, pareil en sa frange violette aux méduses qui flottent sur les mers, simple, pure, sans autre ornement que cette frange marine, sans autre membre que son pied, sa tige et sa lèvre. Et pourquoi elle était si belle, personne n'aurait pu le dire, ni en un mot, ni en mille. Et son prix était nul ou incalculable, selon la qualité de l'œil qui la contemplait. Gabriele D'Annunzio.
Nous avons profité de la soirée pour nous retrouver maintenant chez Montine. Tous les amoureux de Venise connaissent bien Montine, qui est à l'arrière des Zattere et tout près de l'Accademia, ce qui en fait un centre artistique. Et depuis longtemps, depuis 35 ans, je crois, que je viens chez Montine, j'y vois toujours à une table les artistes célèbres du moment qui se réunissent, qui discutent. Et ce soir, nous avons essayé de reconstituer une de ces assemblées d'artistes. Et nous avons demandé à Monsieur Vico De Luigi, qui est peintre et qui a fait une exposition l'an dernier à Venise, que j'avais vue d'ailleurs, nous lui avons demandé de présenter les problèmes de la peinture. Et puis il y a tout de même, et surtout à Venise, il y a ce problème des arts industriels, comme on les appelle aujourd'hui, des arts mineurs, comme on disait injustement jadis, et qui représente une des possibilités de vie de Venise dans l'avenir, problème donc particulièrement crucial. Et c'est le docteur Giuseppe Landi qui dirige le Centre régional des métiers d'art qui va en parler, surtout du point de vue de la mosaïque, cette vieille tradition des origines byzantines.
Je me rappelle ici, à la table où nous sommes, je me rappelle avoir vu une noce de quartier
Alors je suis venu m'asseoir là en face, à la table à côté, n'est-ce pas? Et c'était très gai, c'était charmant, de ces noces qu'on voit passer le matin sur le grand canal avec la mariée en blanc, et puis un photographe de rigueur, et derrière toutes les gondoles, des amis qui accompagnent, n'est-ce pas? Et alors la noce après est venue chez Montine, comme un restaurant de quartier ici, sous la treille. Ça rappelle Mantegna d'ailleurs. On retrouve les mêmes treilles que dans Mantegna. Et alors, dites, puisque nous parlons de Mantegna, voilà un problème qui m'intéresserait beaucoup, c'est que Venise est une ville où le passé est non pas étouffant, mais le passé n'arrête pas. Je trouve que la merveille de Venise, c'est qu'il n'y a pas de coupure de siècle. C'est un fleuve qui coule et nous sommes dans la même eau que dans le passé. Alors le problème qui, pour moi, m'intéresse tellement, c'est comment est-ce qu'un homme comme vous, qui est un homme ouvert sur les impératifs, comme on dit aujourd'hui, de l'art moderne, comment est-ce qu'un homme comme vous, qui est un vieux vénitien, en même temps un jeune vieux vénitien, comment est-ce que vous pouvez unir, concilier ce grand courant vénitien qui ne s'est jamais interrompu, et puis tout d'un coup cette époque si tranchée par rapport à la civilisation antérieure? Est-ce que ça ne fait pas en vous un conflit? Est-ce que ça ne vous gêne pas? Comment est-ce que vous résolvez ça?
Oui, c'est vrai, c'est un conflit, comme tout le monde d'ailleurs dans le monde entier, parce que la nouvelle génération...
Mais plus encore à Venise.
Plus qu'encore à Venise, parce que vous avez le passé, chaque jour, vous êtes en contact avec le passé.
Et le passé est si caressant, tandis que dans les autres parties du monde, c'est un poids quelquefois supporté pour certains, j'entends. Mais ici, c'est une caresse perpétuelle.
Mais oui, parce qu'elle avait conçu comme une caresse. Venise, c'est un acte d'amour de l'homme vers la nature. Il n'y avait rien ici, complètement rien. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est créature de l'homme.
Et en conformité avec la nature. C'est pour ça que ce qui ailleurs peut être une cassure intellectuelle, ici c'est un drame de rupture amoureuse. Oui. Alors racontez-nous un peu si vous avez rompu ou non et comment vous êtes en amour avec Venise.
Mon amour, c'est un amour très étrange, c'est un amour folle, je pense, parce que j'ai détruit mon amour tandis que je l'aime. Alors...
Ça a l'air d'une histoire humaine, ce que vous dites là.
Peut-être une histoire humaine. C'est un problème pour moi. C'est un problème que je tâche de résoudre dans mon tableau. La solution, je ne l'ai pas trouvée encore.
Est-ce que ce n'est pas dans la poésie de votre peinture qu'est la solution?
C'est une poésie tout à fait spéciale. Parce que comme vous avez dit, oui, la tradition c'est grande. J'ai senti la tradition pendant des années quand j'étudiais tous les peintres vénitiens à Rome, dans un musée, parce qu'il y avait des peintres vénitiens ici à Venise, de la dernière école comme Canaletto Guardi. Il n'y a pas de tableaux, il y a seulement un, deux ou trois tableaux. Dans toute Venise, ils ne sont pas les meilleurs. Tous les autres tableaux sont dehors de Venise, dans les musées, ou en France, ou en Angleterre. Comme ça, moi j'étais à Rome, et j'avais une grande nostalgie de ma ville, et j'ai vécu l'atmosphère de Venise à travers les tableaux de ces peintres. Et je les peignais aussi.
Je dis souvent que la grande invention de l'art vénitien, c'est au fond d'avoir su traduire les premiers la rêverie. Oui. Et peut-être que justement dans votre peinture, ce qui passe, c'est cette faculté de rêverie. Elle change d'objet, mais vous avez encore cette faculté de rêver la peinture.
Oui, vous avez touché exactement le point. C'est la rêverie est complètement une chose même technique. Parce que tous les peintres vénitiens n'ont jamais peigné dehors. Ils ont toujours peigné dans l'étude, chez eux, par mémoire.
Mais vous savez que Bonnard disait encore, on ne peut pas peindre dehors parce que la nature vous tue. Et on ne peut dialoguer avec elle que quand on est rentré à l'atelier. Et il peignait toujours à l'atelier. Ce que vous dites se rattache tout à fait à ce que disait Pierre Bonnard.
J'ai fait des études sur la camera oscura, qui c'était une forme primordiale pour la notre machine à photographier.
Mais depuis Léonard, ça occupe depuis l'art italien, la caméra oscura.
Mais cela, c'était seulement le but, c'était seulement de fermer des moments de nature et des couleurs, même pas de faire des couleurs, mais d'écrire des couleurs. Ils écrivaient ici rouge, petit rouge, bleu, ou certains particuliers de l'architecture. Puis,
Il y avait tout le travail de la mémoire dans votre atelier, qui nous donne la dimension du rêve. Alors, j'ai dit à moi-même, il faut trouver la Venise qui est dans toi-même.
Telle qu'elle est dans votre âme.
Oui, parce que c'est une Venise qui était dans mon intérieur.
Mais pas dans les yeux.
Elle est dans les yeux comme élément, comme nous avons la parole, qui est une chose que nous avons reçue par nos parents. Alors c'est une chose que nous avons dérivée de notre parent, c'est une chose qui vient avec la tradition, c'est une chose qui vient comme la tradition de la peinture vénitienne. Mais c'est un moyen d'expression.
Mais une participation avec les autres. Mais évidemment, votre participation, artiste créateur, c'est d'apporter ce que les autres n'ont pas. Alors à la fois vous participez et vous rompez avec les autres pour créer ce que vous êtes seul à pouvoir créer, n'est-ce pas? C'est le problème de l'artiste.
Le voilà. Et il m'est arrivé une chose tardole en Amérique, où j'ai fait des expositions. Du monde qui n'avait jamais vu Venise, il avait complètement la sensation d'une chose qu'ils ont vue, qu'ils connaissent. Et il n'a jamais été dehors des États-Unis. Alors comment ça arrive cela?
C'est magnifique, ça prouve que Venise est une corde qui joue. Un chant qui est au fond de toute âme humaine,
oui.
Ce n'est pas seulement un pittoresque.
Des nerfs du sud de l'Amérique, pour exemple. Oui, bon, je l'ai trouvé.
Ils ont senti Venise à travers votre peinture. Oui. Alors voilà, vous pouvez faire de la peinture moderne avec une esthétique tout à fait différente, mais Venise, vous la portez en vous et elle imprègne toutes les recherches. Mais c'est peut-être la leçon même de la culture, ça. La culture, elle doit être perpétuellement neuve, mais sa richesse, c'est qu'elle est imprégnée, baignée par tout ce qui précède.
Exactement.
Mais il faut que ce soit assimilé dans le sang et il ne faut pas que ce soit des objets tels quels que l'on charrie comme des débris dans un fleuve. Il faut que ce soit la matière même de l'eau, la substance même de l'eau qui court du sang, n'est-ce pas?
Exactement. Alors, c'est comme ça que vous alors, commencez à voir la Venise devant vous et puis la Venise dans vous.
Le brouillard s'enfonce avec la nuit sur la ville attentive. Une coupole se devine, un fronton se défait. C'est ainsi que tu verras Venise après ta mort. Claude Aveline.
Professeur Giuseppe Dallandi, vous êtes directeur de ce qu'on appelle à Venise le Centro Regionale Mestieri Artistici, ce qui veut dire le Centre Régional des Métiers d'Art.
Oui.
Des métiers d'art qui ont été pendant tant de siècles cultivés avec tant de succès et tant de bonheur et de beauté à Venise. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ces métiers sont en danger d'être abandonnés? Et est-ce pour cela, est-ce pour les sauver de ce danger que vous avez créé ce centre régional, pensez-vous qu'il y a actuellement le péril que des métiers d'art soient littéralement dans un déclin qui puisse même faire présager leur fin?
Oui, nous avons déjà examiné ce problème avec les autorités de Venise. Nous avons vu que beaucoup de jeunes ils vont travailler à Mestre. Je peux dire Mestre Marghera, c'est-à-dire dans la terre ferme, dans la côte. Alors, nous avons dans le centre historique de Venise une situation grave de problèmes, parce que l'artisanat vénitien, il n'y a pas beaucoup de gens. Nous avons examiné la possibilité de l'institution d'une école national pour l'artisanat artistique de Venise.
Si vous me permettez de vous poser une question, je vous demanderai pourquoi ces jeunes abandonnent-ils l'artisanat qui est une création artistique, même dans des métiers d'art, pour se résigner à accepter un métier industriel dans lequel il ne reste plus rien de création artistique. Ces jeunes ont-ils donc renoncé à être des artistes pour consentir à devenir uniquement des ouvriers? Est-ce qu'il y a là uniquement un problème économique ou bien y a-t-il aussi un problème humain, intellectuel ou spirituel, si vous voulez?
Oui, c'est vrai qu'est-ce que vous avez dit, monsieur, mais la vérité est que c'est principalement un problème économique. Parce que beaucoup de familles en Venise, ils pourraient faire envoyer son fils directement dans l'industrie, parce qu'il y a tout de suite une possibilité de gagner.
De gain, oui.
Alors, c'est-à-dire que l'artisanat vénitien n'est pas possible produire comme les industries.
Oui.
C'est vrai que nous avons des produits particuliers que n'est-ce pas possible de produire avec les machines ou dans l'industrie. Mais nous avons déterminé une variation dans les goûts de le public. Alors, la céramique, c'est possible d'avoir le même type produit dans l'industrie. Pour les orfèvres, la situation c'est terrible. Parce que les orfèvres artistiques qui 30 années, il était 40
entreprises.
Aujourd'hui, les orfèvres artistiques sont seulement 6.
C'est terrible comme
six.
Prix, oui. De 40 à 6,
oui.
C'est terrible.
Notre exemple, nous pouvons avoir dans les mosaïques.
Oui.
Dans les mosaïques, il y a 20 ans, nous avons dans la ville de Venise 30 sociétés. Ils travaillaient les mosaïques modernes et de la mosaïque antique. Et aujourd'hui, nous avons seulement une entreprise avec une personne qu'il y a 60 ans.
Oui.
Et il y a 20 ans, nous avons dans les 30 entreprises 150 personnes.
Il y a donc, si je comprends bien ce que vous me dites, il faut créer ou créer de nouveau dans une jeune génération le désir de revenir à des métiers d'art, aux métiers artisanaux qui ont fait la gloire de Venise, la mosaïque dont vous parliez, le tissu, le verre n'a jamais été interrompu puisque les fournaises de Murano continuent à travailler à force. Mais le problème, alors, le problème économique étant admis, il est admis que l'on doit créer, donner à une jeune génération les moyens de s'orienter vers les instituts, vers les métiers d'art qui ont été la gloire et la fortune, je dois dire, de leurs ancêtres. Mais alors, il y a un problème qui m'intéresse toujours quand nous nous approchons de l'artisanat d'art, c'est le problème esthétique de l'originalité des formes. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux, dans cet artisanat d'art que vous développerez, que vous créez, orienter le travail des personnes qui s'y appliqueront vers une continuité de la tradition vénitienne?
Nous devons faire une action d'orientement dans le jeune, principalement. Et puis avec les professeurs, nous pouvons orienter le jeune dans l'ancienne forme pour perpétuer la tradition de ces produits traditionnels de Venise. Le principal, c'est pour le travail de restauro de la basilique de Saint-Marc, des œuvres d'art de Venise et d'autres villes d'Italie en mosaïque, Palermo, Torcello, Aquileia. Mais le second problème, c'est de préparer le jeune à utiliser matériaux nouveaux.
Oui.
Parce que n'est-ce pas possible d'aller seulement avec des mosaïques byzantines, mosaïques traditionnelles, mosaïques romaines, mosaïques de Ravenna, vous connaissez. Mais nous devons absolument, pour avoir des contacts avec les architectes, pour les modernes œuvres opérées, avoir des matériaux nouveaux,
des
pierres,
des
glaces, des verres.
Voilà, vous créez alors des matériaux nouveaux.
Oui. Nous pouvons faire des interprétations des œuvres modernes de Picasso, Braque, Miro. Nous avons déjà fait.
Oui, comme dans la tapisserie. Oui. Comme dans les verriers.
Oui,
comme
avec les verres, avec les pierres, aussi, oui. Avec oui. Autres matériaux. Mais n'est-ce pas, avec les mosaïques byzantines traditionnelles.
Est-ce que vous avez connu les efforts qu'a fait Severini, le peintre futuriste,
oui,
vous savez,
oui.
Qui a créé un atelier de mosaïque,
oui.
À Paris. Moi, je connaissais très bien, oui. Severini, nous étions très bons amis, je le voyais assez souvent dans son atelier. Et il était arrivé à créer en France un courant d'intérêt, de création pour la mosaïque nouvelle, pour une mosaïque, oui. Qui justement utilisait des éléments. D'ailleurs, Severini ne travaillait presque pas avec la mosaïque de verre. Il travaillait surtout,
oui, oui.
Avec le cube de pierre, avec la tessera de pierre. Eh bien, Severini est arrivé à donner une interprétation tout à fait neuve de l'art actuel,
oui.
Des créations personnelles de lui, ou même transposées en mosaïque des peintures futuristes. Il est arrivé à donner une interprétation nouvelle grâce à ce procédé antique. Donc, je vois là, dans votre effort pour redonner un élan nouveau à l'artisanat des métiers d'art, la possibilité de rajeunir perpétuellement les matériaux eux-mêmes,
oui.
Et d'apporter à ces matériaux le moyen de s'épanouir dans des formes nouvelles. Donc, vous ne voyez pas de limite, en somme. La situation actuelle du métier d'art est d'abord un problème économique.
Oui.
C'est ce problème économique qu'il faut résoudre, il faut donner aux jeunes gens qui veulent devenir,
oui.
Ouvriers d'art la possibilité de le faire. Il faut aussi ouvrir les métiers d'art à une activité intellectuelle et esthétique, surtout toujours neuve, en somme. Votre idée, c'est ce que le Bauhaus de Weimar,
oui.
Avait voulu faire.
Oui.
Gropius aussi a voulu ressusciter les métiers d'art. Et il a voulu ressusciter les métiers d'art, enfin continuer les métiers d'art, en les mettant en contact avec les artistes eux-mêmes. C'est pour ça que dans les mêmes ateliers, vous aviez Kandinsky, vous aviez Clay Feininger, qui travaillaient en même temps que le maître céramiste, que le maître ébéniste, que le maître forgeron. Et est-ce que vous pensez aussi, dans votre institut, justement, avoir cette collaboration à la fois des ouvriers d'art et des artistes, si vous voulez, qu'ils ne soient qu'ils des peintres,
oui,
sculpteurs, qu'ils ne soient pas des ouvriers d'art.
Si.
Et comment peut se faire cette collaboration qui me paraît très intéressante?
Alors, notre école, il y a 13 ans d'école. Nous avons des jeunes à 15 ans. Et puis, dans 3 ans, nous pouvons avoir, à la fin, un ouvrier parfait dans les mosaïques ou dans les meubles. Mais qu'est-ce que vous avez dit de la collaboration entre les artistes et l'ouvrier d'art? C'est un problème important, très important pour nous. Parce qu'il n'est pas possible d'aller avant sans ces collaborations.
Je vous attends ce soir auprès de Sant'Alvise. Laissez votre gondole à l'angle du canal. La mienne sera là, sans lumière au fanal, avec le Felds et mon vieux gondolier qui prise. Il est sûr. Nous serons vêtus comme à Venise il sied, en masque et bauta, c'est carnaval. Vous viendrez me rejoindre avant la fin du bal, à l'heure du gros pont et de la forte mise. Mettez votre collier de perles, votre anneau, et ce voile que j'aime en point de Murano, où vous êtes si mystérieusement belle, et dont la maille fine, à son piège enchanté, semble si bien, ô ma blanche et noire hirondelle, vous prendre toute en un filet de volupté. »